Si le mois de septembre est le mois de la rentrée scolaire, le mois d'octobre marque la rentrée théâtrale. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à la programmation du théâtre Paul Scarron, place des Jacobins. Et nous accueillons dans nos studios son directeur, Didier Laster, qui est aussi comédien et metteur en scène. Bonjour.
Bonjour.
À mes côtés, Nicole Sandillon, que nous avons l'habitude d'écouter sur notre antenne pour l'actualité théâtrale en Sarthe. Vous avez assisté à la répétition de la première pièce qui sera jouée la semaine prochaine, Le roi se meurt, d'Eugène Ionesco. Alors pourquoi avoir choisi cette pièce, Didier Laster, et que raconte-t-elle pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas écouté la chronique de Nicole ?
Un roi va mourir. Alors c'est un roi normalement qui est censé être âgé, mais je pense qu'il faut dépasser ce stade-là. C'est-à-dire c'est un roi qui peut être vraisemblablement joué par même des acteurs très jeunes, puisque ce roi c'est nous. Et donc son entourage, en l'occurrence dans la pièce, il a deux reines qui l'accompagnent, une ancienne et une nouvelle, on va dire, un garde, un docteur et une servante qui va aussi à un moment donné servir d'infirmière, on va dire la garde rapprochée d'un roi qui aurait un pouvoir réel. L'annonce est faite par une la reine Marguerite, donc la reine la plus âgée, et on lui dit tu vas mourir à la fin du spectacle. Donc à peu près équivalent à 1h25, 1h30. Donc la chose est dite. Et on va assister pendant, disons, toute la pièce qui dure à peu près 1h50. Ah, parce qu'il y a eu toute une introduction avant réellement que le décompte démarre. Et on va assister au combat de ce roi qui va passer, comme dit Ionesco, par les trois phases, c'est-à-dire le refus, la peur et l'acceptation. Donc on a ces trois phases-là, et donc je pense que ça nous renvoie assez joyeusement à certains moments à imaginer si quelqu'un dans votre entourage vous annonçait ça un matin, parce que ça s'annonce au matin. Il arrive, le roi, le matin, il dit « Tiens, j'ai rien mangé aujourd'hui, mets-moi mon breakfast. » Et la reine lui dit « Toi, attendez, majesté, mais vous allez mourir. » Donc il se lève, il est en pyjama et il se lève. Voilà, donc imaginez. Donc évidemment, et peut-être finalement cette pièce, elle a quelque chose de tragique bien sûr, parce que ça renvoie à des choses profondes, mais en même temps, comme dans les cas extrêmes, dans la vie, parfois on est obligé de rire, parce que quand un homme se débat dans une situation comme celle-là, il y a forcément des choses qui sont très drôles.
Vous venez de dire, le roi se lève, il est en pyjama.
Oui.
Alors, Ionesco ne l'a pas mis en pyjama au
non. Départ.
Bon, il faut ouvrir une parenthèse peut-être là pour dire que tout metteur en scène est un lecteur.
Oui.
Et que l'intérêt des grandes œuvres, et c'est ce qui révèle d'ailleurs les grandes œuvres, c'est qu'elles peuvent se prêter à des interprétations différentes. Et c'est le cas du roi se meurt. Donc, votre mise en scène se dégage de celle qu'on a faite à l'époque de Ionesco. Ionesco propose dans les Didascalies un décor qui rappelle les scénographies un peu des pièces de Shakespeare telles qu'on les jouait dans les années 50 chez nous, avec une salle du trône vaguement gothique, un trône donc, puis les objets symboliques du pouvoir, le sceptre et la couronne. Vous lui enlevez son sceptre et sa couronne à ce roi, vous gardez assez peu d'objets, il est habillé en pyjama, on peut développer là parce qu'il y a des choix.
L'idée c'était qu'à partir du moment où on s'intéresse à une pièce, évidemment elle est disons datée dans un rapport de calendrier, d'année, mais cette pièce quand on l'a reconvoqué, il faut savoir qu'on l'a déjà monté il y a très longtemps, quand on a commencé le métier, dans les années justement 70, et que donc pour nous c'était un retour, parce qu'on était confronté à la réalité de l'actualité, avec un monde qui actuellement est en mouvement violemment, puisque des pouvoirs, des dictatures s'écroulent un peu autour de nous, et que en étant donc sensible à l'actualité, on s'est dit, mais si le théâtre a à prendre la parole aujourd'hui, c'est peut-être justement sur des choses comme celle-là qui nous entourent, en essayant de donner, disons, un autre éclairage, quelque chose de plus intime finalement. Qu'est-ce que ça fait dans l'intimité d'un pouvoir quand à un moment donné, tout s'écroule autour de lui, et donc qu'est-ce qui lui reste à faire? Et on s'est aperçu, et on va parler de la scène en même temps, parce que ça va parler des objets, des costumes, et donc on a eu envie de la ramener vers nous, cette pièce. Et donc, on a pensé au printemps arabe, on a pensé à tous ces éléments-là, et on s'est aperçu, en faisant des recherches, que quand un pouvoir, mais c'est Hitler l'a fait, puis d'autres l'ont fait. Quand un pouvoir est en danger, il s'enterre. C'est-à-dire que sous les palais présidentiels ou dans la ville, il y a des, on peut appeler ça des bunkers, on peut appeler ça des appartements qui sont reconstruits en dessous du palais parce que on se sent plus en sécurité. Toute la pièce démarre, tout explose, l'univers est en train de péricliter autour du pouvoir. Alors ce roi descend avec sa garde rapprochée, descend en bas. Pour se cacher, pour se préserver. On va d'ailleurs pendant tout le temps de la pièce entendre en fond cet univers qui est en train de d'une certaine manière se révolter autour du pouvoir. Donc voilà, donc on a cherché à avoir une scénographie qui prenne en compte cette idée de quelque chose d'un soubassement avec des grosses colonnes qui tiennent un plafond bas et où le roi est là, voilà, et d'ailleurs tous les personnages au début de la pièce entrent pour la première fois. C'est-à-dire qu'on a cherché à trouver une urgence qui est que, y compris le roi, quand ils arrivent dans l'espace, puisqu'ils rentrent tous un à un, ça c'est Ionesco, une espèce de scène d'exposition formidable où tous les personnages arrivent un à un pour qu'on puisse les découvrir. Il y a pour eux évidemment l'évidence qu'ils arrivent pour la première fois dans ce lieu-là, et on a mis là un trône improbable de fait de guingois, ou donc de toute façon voilà, puisque tout est resté en haut, et donc voilà une petite chaise qui symbolise le trône, tout ça, et voilà, et donc l'histoire démarre dans cet univers qui évidemment est un univers terrible, parce que finalement le faste, toute la vision qu'on pourrait avoir du pouvoir n'est pas là, et on a donc des costumes qui sont aussi des restes, des traces, disons, d'un faste qui ne peut plus exister, et où là donc le roi va se débattre pour mourir.
Donc là, le danger va venir, on va sentir qu'il y a un danger qui vient de l'extérieur.
Oui.
Parce que quand on lit la pièce, on apprend tout le temps que les choses disparaissent.
Oui.
Que le royaume rétrécit,
oui,
que les gens meurent.
Oui.
Et là, en fait, Béranger, ça va être un peu Kadhafi.
Oui.
Il est enterré
Kadhafi,
quelque part.
Kadhafi, il est mort dans un tuyau de pour les déchets. Enfin, je veux dire. Et quand ça nous a beaucoup inspiré, parce que vous savez qu'il avait tout un labyrinthe en dessous de son palais présidentiel qui est organisé avec les appartements pour ses femmes, pour ses services de sécurité, tout ça. Et c'est impressionnant. D'abord de mauvais goût, mais en plus, on vit comme des rats. D'une certaine manière, le pouvoir, voilà. Donc, oui, ça nous a inspiré. Mais en Égypte, il y avait aussi ce même dispositif sous le palais présidentiel au Caire. Et où, à un moment donné, Ben Ali était, pendant assez longtemps, on le descendait en bas mais on a ça dans toutes les, on l'a ça à l'Élysée et on a ça à la Maison Blanche, hein. À un moment donné, le pouvoir s'enterre. Sauf que là, ils peuvent toujours s'enterrer. Il y a un truc, de toute façon, qui passe les murs et qui passe toutes les frontières. C'est la définition de la mort et qu'il n'y échappera pas. Voilà. Donc après, ce qu'on a aussi cherché à faire, c'est, ben, je sais pas, dans les objets, dans les choses, on rapproche, donc on actualise, on donne des éléments très concrets pour que les gens d'aujourd'hui aient des repères visuels très concrets de dire mais c'est là, c'est en 2012 que ça se passe. Voilà.
Donc, il ne faut pas dévoiler la fin.
Non.
Hein. alors, par ailleurs, comme dans toute grande pièce, les personnages se prêtent à des interprétations différentes. Mmh. Alors notamment le roi Béranger et puis la reine Marguerite, qui est très reine shakespearienne, et qui a été interprétée des fois comme quelqu'un d'extrêmement dur. Et puis par ailleurs, ce jeu entre les registres qui va constamment du tragique au comique ou au burlesque, ça ouvre des pistes pour le comédien, mais ça lui laisse beaucoup de liberté, mais en même temps c'est difficile.
C'est exigeant.
Est-ce que vous pouvez dire comment vous vous êtes confronté à ça?
D'abord, il faut peut-être juste, finalement, c'est-à-dire qu'il est complexe, Béranger, hein, puisqu'il s'appelle Béranger, ce roi, il est complexe parce qu'il est multiple. Nous, il y a quand même une piste qu'on a pris parce que finalement, on le sent, enfin, en tous les cas, c'est les directions d'acteurs qui m'ont été données. Il y a quelque chose de l'enfance. Un enfant qui assez tôt apprend qu'il va mourir, puisque le roi, lui, il est dans cet état d'esprit. De toute façon, à un moment donné, il dit, ah, si je pouvais avoir un siècle devant moi, peut-être aurais-je le temps. C'est-à-dire qu'il est, lui, dans une dimension de vie extrême qui peut durer très très longtemps. Lui, non, désolé. Bon. Donc, il y a bien une espèce de naïveté d'enfant par rapport à la mort. Et donc, donc je pense qu'il faut que ce soit à la fois un vieillard, un adulte et un enfant. Donc, dans le jeu, il y a ça. Et c'est un jeu tout en rupture. C'est-à-dire, c'est un jeu qui va passer par toutes les... C'est compliqué, puisque je ne l'ai pas vécu, d'imaginer si moi-même ça m'arrivait, cette révélation, comment je réagirais. Ce que je dis toujours, et ça m'a beaucoup servi, mine de rien, c'est une plaisanterie, mais elle est sincère. Pour moi, c'est que je disais souvent aux copains, comme ça, en plaisantant, en leur disant, le jour où la mort se présente devant moi, elle a intérêt à être en forme, parce que je vais me débattre comme un lion. Alors évidemment, bon voilà, après, bon, c'est illusoire, mais je pense que c'est ça qui me sert pour mon jeu, c'est qu'il se débat énormément, donc c'est un jeu tout en rupture. Et en même temps, il faut que ce soit un jeu qui, à certains moments, fasse rire, parce que je pense qu'on ne peut être que naïf face à une volonté comme ça de se battre, et en même temps, des fois, il faut être dans l'abandon total de l'acceptation de cette révélation-là, et que ça renvoie aux gens leur propre incapacité, eux aussi, à un moment donné, à accepter cet inéluctable. Donc, c'est, voilà. Et le couple, comme vous dites, le couple du roi et de la reine Marguerite, il est magnifique ce couple. Parce que c'est un couple d'abord qui était en rupture, puisqu'il y a une deuxième reine. Dès le début d'ailleurs, il lui dit, il embrasse goulûment la reine Marie, et il se tourne vers Marguerite et il lui dit « Bonjour Marguerite, déjà là ?» Non, c'est pas grave. Tu es déjà là. Eh oui. C'est-à-dire, d'une certaine manière, si tu n'étais pas là, ça m'arrangerait. Mais elle, la reine Marguerite, qui est effectivement une reine autoritaire, mais disons pragmatique, qui a un sens précis du pouvoir, parce qu'il ne dirige plus son pays. Parce que la reine Marie le dit, hein, c'est les bals, on va faire les fêtes, tout ça. Bon, et la reine Marguerite est là, pragmatique, organisée. C'est elle d'ailleurs qui annonce la mort, et c'est elle qui dit tout doit se passer comme ça se passera, et je serai là jusqu'à la fin. Or, il faut savoir quand même que Ionesco écrit un truc formidable, c'est qu'il réunit le vieux couple à la fin. Ils sont plus que tous les deux sur scène. Tout le monde est parti, soit parce qu'on s'est sauvé, soit parce que le roi les a fait disparaître dans sa tête. Parce qu'à un moment donné, quand on meurt, j'imagine que des choses s'effacent dans la mémoire. Et elle va, comme une maman, le prendre par la main et l'accompagner jusqu'à la mort. Voilà. Donc c'est ça qui est quand même, non. Et avec un très bel accompagnement, elle le vit de toute sa mémoire de l'enfance, les contes qui l'ont nourri. Bon, vous savez que Ionesco est roumain. Donc on voit que Ionesco met toute une mémoire de contes roumains et elle l'amène. Et à un moment donné, Ionesco dit une grande lumière blanche envahit le plateau et le roi rentre dans cette lumière. Mais c'est elle qui va l'accompagner comme une mère jusqu'à la fin. Ça pose bien la question de nos civilisations d'aujourd'hui par rapport à l'accompagnement, par rapport à la mort. Moi, je trouve qu'il nous donne une très belle leçon de vie.
Et moi, je me dis, pour finir, c'est trop tard pour poser la question.
Désolé, mais je suis navré, mais c'est...
C'est pas un peu une psychanalyse pour un comédien de jouer un rôle pareil?
J'en sais rien, ce qu'il faut surtout, c'est s'amuser.
Eh bien, merci Didier Lasterre de nous avoir présenté cette pièce d'Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, qui sera jouée par le Théâtre de l'Éphémère la semaine prochaine, du 11 au 13 octobre, puis du 22 au 26 octobre, au Théâtre Paul Scarron. Et merci aussi à Nicole Sandillon.